pour partager ce moment et pour ensuite prolonger ce que je vous dirais par un échange. Donc, voilà notre thème. Pour une Église plus spacieuse selon l'Évangile. Dire cela, eh bien, c'est exprimer une aspiration, un désir que je crois bien nous partageons tous ici. J'ai envie d'ajouter tout de même, parce que l'Église n'est pas un îlot au milieu de notre monde et de notre société, pour une Église plus spacieuse, dans un monde, si possible, aussi plus spacieux. Nous savons combien l'humanité, en ce moment, est en déficit d'ouverture, de respiration, de générosité, encore que, on découvre en ce moment, en ces jours, qu'il y a des réserves de générosité, que nous ne soupçonnions peut-être plus. Nous savons que la tendance lourde, c'est tout de même à travers le monde, c'est d'élever des murs, c'est de renforcer les frontières, c'est de refouler, c'est d'exclure. Et nous savons aussi tout le poids des idéologies, elles aussi en circulation, qui sont fondées sur le repli, l'exploitation de peur et l'exclusion. Donc, notre actualité, elle est remplie de cela, qui traverse aussi, forcément, l'Église. Et tout cela sous l'horizon de ce que le poète Josip Mandelstam appelait la nuit soviétique, qui est tombée de nouveau, avec tout le cortège de malheur qui s'ensuit. Donc je crois que tout cela, voyez-vous, nous invite, je dirais, à la résistance, à une résistance contre le chantage du mal, déjà, tout simplement, contre le mensonge, et à une résistance pour la confiance en la force de la vérité et de la fraternité. Alors oui, cette résistance, elle se joue en Ukraine, Aude évoquait un instant ce pays avec lequel j'ai des liens intellectuels et spirituels tout particuliers. Et donc, oui, ce soir, c'est une soirée, si vous le voulez bien, qui sera pour les Ukrainiens. Cette résistance, elle se joue aussi, bien sûr, dans notre pays, hein, en ces jours présents. Et puis, je crois qu'elle se joue justement dans l'Église, qui doit être envers et contre tout ce que nous savons de drames, de tragédies, de scandales. L'Église doit être en résistance de confiance. Nous acheminons vers les jours saints, vers les jours ultimes de la Passion, prélude à la résurrection. Donc, il faut que nous arrivions à réfléchir ici en chrétiens qui ne trahissent pas la foi en la résurrection. Alors, ma proposition, plus précisément pour ce soir, la voici. Au risque de vous déconcerter un petit peu, mais je prends ce risque, je voudrais vous inviter, avant de savoir comment servir la cause d'une Église plus spacieuse, à prendre le temps de se replonger dans les Écritures. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est là, c'est dans les Écritures que l'on apprend ce que j'aime bien appeler les manières de Dieu, si j'ose dire, qui sont aussi des manières qui doivent devenir les nôtres dans l'Église. Et en particulier, c'est dans les Écritures bibliques que l'on apprend à connaître et à reconnaître eh bien, le Dieu qui, sans cesse, ouvre, déverrouille ce qui est fermé, accueille ce qui est exclu et, d'une façon générale, bouscule toutes les formes d'entre-soi. Donc voilà, nous prendrons un petit instant pour réentendre quelques mesures des Écritures saintes. Et puis ensuite, eh bien, je vous proposerai que nous nous centrions sur la vie de l'Église. Alors, pour parler latin, ad intra. Hein, bon, c'est du latin, mais c'est quand même mieux que de parler du fonctionnement de l'Église. Enfin, c'est quand même de ça dont il s'agira. Comment cette Église peut-elle se renouveler aujourd'hui? Je dirais en reconnaissant sans désespoir, mais avec vérité, ses défaillances, en reconnaissant ce drame tout de même, qui est le fait que nous sommes les témoins d'une hémorragie impressionnante dans l'Église de France et ailleurs. Donc voilà, reconnaître tout cela avec réalisme et sans désespoir, je répète, et aussi réfléchir d'une manière telle que nous ne soyons pas ramenés à une Église qui soit un ghetto à l'intérieur de notre société, une Église qui soit immédiatement sur la défensive et dans une posture de défense, de contre-culture ou quelque chose comme cela, car je crois que ça, c'est vraiment le mauvais chemin. Donc, il s'agit plutôt, si vous voulez, de voir comment progresser justement dans l'imitation de Dieu, imitatio Dei, l'imitation de Dieu donc qui accueille l'autre, et l'autre, c'est celui que je croise, c'est tout autre humain. L'autre, c'est aussi le demain. Lévinas disait « Le temps et l'autre », c'est le titre d'un de ses ouvrages. Dans les deux cas, nous sommes confrontés à l'épreuve de l'altérité. Voilà. Donc, progresser dans cette imitation de Dieu en vivant l'esprit de l'Évangile, en vivant dans la mouvance de l'esprit. Donc, j'ose faire ce détour par les Écritures, car vous voyez, avant nos résolutions, avant nos projets de réforme, nos discours sur l'avenir de l'Église, eh bien il y a le projet de Dieu, il y a la parole de Dieu. Voilà la grande source. La grande source est la grande ressource. Et si nous ne partons pas de cela, eh bien, nous pourrons bien aligner nos bonnes idées sur la réforme de l'Église, mais qui ne seront que de bonnes idées, que nos bonnes idées. Alors qu'il s'agit d'engager plus face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Nos bonnes idées ne peuvent pas suffire. Donc, il s'agit de vivre l'Évangile, de retrouver l'énergie de l'Évangile, de respirer le grand air de l'Évangile. Faute de quoi, il y a quelque chance que nous risquions de nous asphyxier. Donc, ouvrons brièvement les Écritures, pour nous former à cette vision spacieuse de l'Église. Et ouvrons dès le début, livre de la Genèse, chapitre 1 et suivant jusqu'au chapitre 11. Peut-être que nous ne nous étonnons-nous pas suffisamment de ce début de la Bible. C'est le livre des Juifs, c'est le livre des chrétiens. C'est ce que nous signifie ce début de la Bible, c'est aussi le livre de l'humanité. La Bible est bien la mémoire d'Israël, en faisant défiler Abraham, Moïse, David, etc., jusqu'à Jésus. Voilà qu'elle se préface par ces chapitres, ouverts à l'ampleur de toute l'humanité. Attendez, je me demande si je n'ai pas fait un lapsus. Bon, la Bible est bien le livre d'Israël. Voilà, pardonnez-moi. Je risque de faire quelques lapsus ce soir. Donc, le livre d'Israël, qui est le livre de l'humanité. Et donc, ce qui s'apprend, c'est que tout être humain est, comme on dit en hébreu, Ben Adam, fils de Dieu. Tout être humain est image de Dieu et voulu par Dieu. Affirmation colossale au vu de ce que sont les réactions spontanées des hommes dans les cultures humaines. Nous savons bien que, d'une façon générale, dans nos cultures, dans les cultures, y compris celles que les anthropologues nous décrivent, l'humanité a tendance à s'arrêter aux frontières du groupe, aux frontières du clan. Eh bien, la Bible fait une percée contre cela. Et elle nous montre effectivement qu'un Dieu qui est dans le souci de toute l'humanité et qui restera dans ce souci au-delà même du chapitre 3 de la Genèse, l'histoire de la transgression. Donc, ça c'est une première chose capitale. Vous voyez, qui vient bousculer toutes nos partitions, répartitions, exclusions, etc. On y apprend aussi dans ces écritures que l'humanité est aux prises avec des maladies de la relation. Des maladies de la relation. Qui sont moins fondamentales que le véritable originel, moins originelles que le péché originel. Je ne résiste jamais à le rappeler, tellement il y a de confusion là-dessus. Le véritable originel, ce n'est pas le péché, c'est le très bon du début. Mais effectivement, ce très bon est décrit ici comme traversé par une espèce de brouillage. Alors, c'est tout ce que nous savons. C'est bien sûr maladie de la relation dès le début, maladie de la fraternité avec Caïn et Abel, maladie de la relation aussi avec l'histoire de Babel. Une humanité qui cherche à ne pas être dispersée, qui cherche à être dans un parfait entre-soi, celui d'une langue unique, avec les conséquences qui en découlent, et que justement le geste de Dieu, qui est un geste de jugement, vient contrer quand Dieu multiplie les langues et disperse les hommes. Bon, c'est un geste de salut entre nous. Donc, maladie de la relation. Tout ça s'est thématisé très clairement à travers le langage du mythe, comment faire autrement, dans ces premiers chapitres de la Genèse qui nous parlent de l'humanité à sa pleine ampleur. Et puis après, nous le savons, à partir du chapitre 12, il est question de l'élection. Alors, il faudrait une soirée entière pour parler de l'élection. Donc, simplement, je dirais que l'élection qui nous paraît aller contre, justement, l'universalisme, Dieu choisit un peuple. Voilà. Il faut que les chrétiens que nous sommes arrivent à percevoir que, cette élection, elle est une réponse aux maladies de la relation. Alors, j'admets que ce n'est pas visible à l'œil nu, donc il faut travailler les textes, mais c'est quand même de ça qu'il s'agit. Voilà. Remettre la relation en mouvement à l'intérieur de l'humanité. Stratégie divine, et parce qu'elle est divine, elle est aussi déconcertante, mais c'est de cela qu'il s'agit. Dieu bénit Abraham, et à travers Abraham, le projet c'est de bénir toute l'humanité. Toute l'humanité. Et la suite du récit biblique, ça va bien être cela. Bien sûr, ce sera l'histoire d'Israël, mais l'histoire d'Israël sans cesse bordée par la présence de l'autre. Alors, parce que, effectivement, l'autre assyrien, babylonien, égyptien, etc., est menaçant, et pas seulement. Parce que l'autre, à travers Israël, ça reste tout de même la grande préoccupation du Dieu de la Bible. Vous vous rappelez, dans la première lettre à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. c'est déjà manifestement la pensée de Dieu, dès le début des Écritures, dès le livre de la Genèse. Avec tout ce qui habite l'humanité de méfiance à l'égard de l'autre, et donc de méfiance à l'égard de ce projet de Dieu. Je vous renvoie au livre de Jonas, bien évidemment. Voilà, les Ninivites, que les Ninivites aussi soient concernés par le projet de Dieu et par le salut de Dieu. Est-ce possible? Et est-ce acceptable? Voilà, donc, un livre qui manifeste bien que tout cela suscite des débats. Et bien sûr, ce sont aussi les nôtres aujourd'hui. Actualité du livre. Et puis, si vous continuez, eh bien, la Bible, c'est l'histoire, par exemple, de Ruth. Ruth, la Moabite. Une Moabite, une femme de la, du peuple de Moab, engendrée de l'inceste de Lot et de ses filles. Pas très fréquentable. Et pourtant, vous rappelez l'histoire dont je signale au point de départ que c'est une histoire de migration, l'histoire de Ruth. Une famille de Bethléem qui se déplace pour fuir la famine. Là aussi, vieille histoire de l'humanité à travers les siècles et histoire de notre monde contemporain. Et puis, bon, voilà, je ne raconte pas l'histoire, mais... vous vous souvenez de la rencontre, finalement, de cette Moabite, de Ruth, et de ce fils d'Israël, Boaz, et de leur rencontre est engendré Obed, le fils de Jessé, qui lui-même le père de Jessé, qui lui-même sera le père de David. Voilà, audace extrême, voyez-vous. De cette histoire qui fait que l'étranger est incorporé à la chair d'Israël. Et c'est ainsi que le Dieu qui, dans le livre d'Isaïe, convie Jérusalem dans l'un de ses poèmes de Sion, élargit l'espace de ta tente, eh bien, ce Dieu-là est le premier à élargir l'espace. Donc, voilà pour l'Ancien Testament. Et si vous passez au Nouveau Testament, eh bien, nous savons qu'il prolonge ce grand mouvement et il l'accomplit. Voilà, Jésus vient pour les brebis perdues d'Israël et, en même temps, en réalité, il vient pour tous, pour rassembler tous les hommes. Voilà. Et ce « tous », là aussi, c'est une des leçons des Écritures. Si nous lisions et si nous prenions vraiment au sérieux les Écritures, cette ouverture, ce souci du spacieux, mais il est écrit en continu dans les Écritures. Il est écrit, avec l'histoire des mages, bien sûr. Il est écrit avec l'histoire de la Cananéenne. Il est écrit avec l'histoire des relations de Jésus et des Samaritains. Tout de même, là aussi, peuple méprisé, honni des Juifs. À l'époque de Jésus, ce qui se dit, c'est que seul le Messie pourra réconcilier les Juifs et les Samaritains. Et nous savons la place des Samaritains dans le récit évangélique. Voilà. Donc, voilà, toutes ces marginalités, voyez-vous, elles sont rapatriées, si j'ose dire, par Jésus. Ajoutons tous les irréguliers en terre d'Israël qui sont eux aussi réintégrés pour former la communauté de Jésus. Étrange communauté qui recrute parmi ce que l'on repousse, parmi ce que les observants regarde de loin et écarte. Donc les pécheurs, donc les publicains, donc les prostituées, etc. Voilà la communauté de Jésus. Et donc des pécheurs pardonnés et réintégrés dans le lien avec Dieu. Et ça sera la vérité aussi de celui que Jésus choisit comme chef, Pierre, lui aussi, un pécheur pardonné. Ça devrait aussi faire réfléchir à ce qu'est le commandement dans l'Église. Voilà, donc voyez-vous, si j'ai rappelé tout ça, oui, c'est parce que je crois que cette mémoire scripturaire, ça, je pense que c'est très très important, hein, cette mémoire scripturaire que nous devons cultiver et approfondir, eh bien, elle devrait modeler un profil de croyant ouvert à la catégorie justement du spacieux. Et puis vous ajoutez encore à cela, eh bien, la finale de Matthieu 25, le jugement des nations, où retentissent « Venez les bénis de mon Père » en direction d'hommes ou de femmes qui n'auront eu nulle conscience de rencontrer Jésus, qui n'auront pas connu Jésus, mais qui auront eu les gestes qui feront que Jésus les reconnaît, hein, comme dans sa proximité, dans la proximité au Père. Voilà, donc tout cela, j'évoque très, très cavalièrement, mais aussi comme une invitation, mais je me doute qu'ici, c'est une invitation qui trouve un écho immédiat, hein, à revenir aux Écritures, voilà, à se laisser modeler par les Écritures pour, je vous disais tout à l'heure, acquérir un peu, s'il se peut, les manières de Dieu. Et donc, avec tout cela, eh bien, oui, essayons d'aborder cette question de la réforme de l'Église. Alors, faut-il dire réforme? Je ne sais pas trop. C'est plus qu'un aggiornamento, hein, dont nous avons besoin aujourd'hui. Hein, ça va certainement beaucoup plus loin. Le père Guilain Lafond, qui pour moi est un expert, hein, en matière de réflexion ecclésiologique, un grand théologien, un bénédictin, parle de réinventer l'Église. Réinventer l'Église. Sachant que il y a tout ce que nous savons, hein, il y a tous les effets évidemment pathogènes d'un certain ordre ecclésiologique ou ecclésiastique, comme vous voulez, qui a produit de grands fruits, hein, au long des siècles du christianisme, mais quelques autres fruits moins bons, hein, et qui peuvent être même aujourd'hui de grands désordres. Nous sommes bien confrontés à cela. Alors, je vais développer, si vous voulez, cinq réflexions successivement à propos de cette réforme de l'Église. D'abord, pour rappeler que si réforme ou réinvention de l'Église il y a et doit y avoir, c'est parce que nous nous retrouvons aujourd'hui au point d'aboutissement de siècles d'une institution qui s'est constituée de manière de plus en plus hiérarchique, de plus en plus inégalitaire, et en laissant s'installer, je dirais, des points de sacralisation à l'intérieur de l'institution. Or, le sacré, nous le savons, c'est tout ce que dénonce, ce qu'apprend à identifier et que dénoncent les Écritures, à travers ce grand procès de l'idolâtrie. Mais de l'idolâtrie, voilà, il n'y en a pas seulement chez les païens. Il y en a dans l'Église. Donc, voilà, c'est cet ordre ecclésiastique qui aujourd'hui n'est plus possible, n'est plus tenable, et qui en fait est le produit d'une longue histoire. Dans le dernier livre que j'ai publié, j'essaie de donner quelques éléments sur cette histoire. C'est une histoire qui est travaillée parce que je, je désigne peut-être un peu brutalement comme une pulsion hiérarchique. C'est-à-dire que, oui, j'ouvre une parenthèse parce que hier soir j'étais à l'Institut catholique et je sais qu'un certain nombre parmi vous étaient à l'Institut catholique et m'ont entendu à l'Institut catholique. Donc je n'ai pas franchement changé de perspective dans l'intervalle. Donc je vais répéter un certain nombre de choses. Voilà, pardonnez-moi ça pour les redites, mais en même temps, ce n'est pas des redites pour tout le monde. Donc, je me les autorise. Voilà. Donc, oui, pulsion hiérarchique, j'ai dû en parler hier soir et je récidive aujourd'hui, qui fait que, finalement, vite, si vous voulez, dès le 3e, 4e siècle, on s'est mis à faire des distinguos dans l'Église. Alors, pour des raisons explicables, hein, enfin, bien entendu, le surgissement du monachisme a ses raisons et une légitimité ô combien. Hein, bon. Mais il n'empêche qu'on s'est mis tout de même de plus en plus à distinguer des classes, donc des sous-classes de chrétiens. Et tout cela, tout cela a fait que est apparue une vie chrétienne à plusieurs vitesses, je dirais, avec des manières plus ou moins éminentes, des états de vie plus ou moins éminents dans l'Église. Et évidemment, éminent parmi les éminences, donc suréminent, le sacerdoce s'est imposé de plus en plus. Alors, un sacerdoce, là aussi, c'est toute une histoire qu'il faudrait reconstituer. Le sacerdoce, je rappelle que dans le Nouveau Testament, il n'y a de sacerdotal que Jésus, que le Christ, dans la lettre aux Hébreux, et que le peuple, et que le peuple sacerdotal, le peuple de Dieu sacerdotal. Vous voyez, on l'a un peu perdu au fil du temps, en construisant une figure de sacerdotalité, celle du prêtre, la figure du prêtre, sur laquelle on a projeté, dans l'oubli du Nouveau Testament, le schéma du sacerdoce vétérotestamentaire. Et donc, c'est ainsi que le fossé s'est creusé. Et en même temps que le sacerdoce devenait de plus en plus éminent et de plus en plus surplombant, jusqu'à aboutir alors à une formule que j'aime citer parce qu'elle dit tout. Au XIIe siècle, c'est la formule du décret de Gratien qui explique que dans l'Église, il y a deux sortes de chrétiens. Il y a les clercs et il y a les laïcs. Et à partir de cela, vous constituez deux paradigmes qui qualifient les uns et les autres. Alors, le paradigme du clerc, c'est quand même en gros tout ce que nous connaissons encore. Le clerc, c'est lui qui est le détenteur du pouvoir. Alors, à partir du Moyen-Âge, on va dire, du pouvoir de faire l'Eucharistie, pouvoir sacerdotal, avec les autres pouvoirs afférents. Ça va être aussi celui qui est le sachant, le détenteur du vrai savoir, du savoir le plus profond. Aux prêtres revient la connaissance de ce qu'on appelle les secretas, c'est-à-dire vraiment le plus profond et le plus décisif de la foi. Et puis de l'autre côté, vous avez le reste, c'est-à-dire vous avez ce que l'on appelle les laïcs, c'est encore un peu nous aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont ceux qui, dans l'Église, sont enseignés. Alors, au XIXe siècle, on parlera de l'Église enseignée versus l'Église enseignante. Et pour eux, eh bien, il suffira de la connaissance de ce qu'on appelle les apertas, c'est-à-dire bon, les vérités les plus immédiatement accessibles. Et puis, eh bien, cette vie, ce sera une vie d'abord d'obéissance, hein, à la parole des clercs. Hein. On a encore au XXe siècle, je n'ai pas apporté les textes, ils sont tellement foudroyants qu'on n'ose même plus les citer, mais c'est l'invitation à l'obéissance. Voilà. Tout est là, être dans l'obéissance. Voilà. Et puis, on voit bien comment, petit à petit, eh bien, ce qui est proposé aux laïcs et ce qui doit suffire à la condition de laïc, ce sont des gestes, des pratiques de piété. Voilà. Tout ça fait que des choses essentielles vont être perdues au fil des siècles, et je le répète, finalement, assez vite. C'est ainsi que l'on va perdre le sens du fondement baptismal de l'identité chrétienne, de l'identité de tous. Je cite la première aux Corinthiens, chapitre 12, « Tous nous avons été baptisés dans le Christ, tous. » Et Dieu sait si Paul, voilà, dans bien des passages des Épîtres, revient sur ce « tous ensemble, tous ensemble ». Avec cela, bien sûr, on a perdu la réalité d'un peuple sacerdotal, hein, institué comme peuple sacerdotal à travers le baptême. Je cite le texte bien connu de Pierre, de la première lettre de Pierre, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. » Voilà ce qui est dit aux chrétiens, à tous les chrétiens. Et c'est ainsi qu'au IIe siècle, vous avez l'un des premiers auteurs chrétiens qui s'appelle Justin, qui désigne les chrétiens comme peuple archi-sacerdotal. Superlatif, s'il en est. Voilà. Donc, voilà, tout ça, vous voyez, ça a été marginalisé, ça a eu tendance à s'effacer. De même qu'a eu tendance à s'effacer la connaissance de l'Église comme peuple de Dieu, et aussi comme corps. Or, Paul nous dit, nous avons été baptisés en un seul corps. Unité du corps. Où, finalement, tous les membres sont en solidarité, hein, et en synergie. Alors, avec toute une diversité, hein, c'est le propre du corps, hein, il y a de la diversité dans un corps humain. Et là, il nous faut réentendre la manière dont Paul évoque le fait que pour sa vie, ce corps reçoit le secours d'un certain nombre de services, d'un certain nombre de soins, hein, qui sont distribués. Hein. Là aussi, il faudrait regarder le texte de près, mais je vous recommande de revenir au chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens. Alors, en veillant à la traduction, hein, nos traductions disent généralement « Il a donné aux uns d'être des apôtres, aux autres d'être des évangélistes, aux autres d'être des docteurs, des pasteurs, etc. » Alors que dans sa lettre, le texte ne dit pas ça. « Il a donné à l'Église des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, etc. » Ce qui change quand même les perspectives. Et je signale au passage que ces charismes, puis c'est comme cela que Paul les désigne, ne sont pas genrés. Bon, ce n'est pas un mot de Paul, mais c'est... Voilà. Bon. Quand on regarde les hommages, les salutations finales des lettres de Paul, on voit défiler des femmes qui avaient dans l'Église primitive, qui ont au service de Paul, hein, des fonctions tout à fait éminentes. Bon. D'apôtres, de diaconos, etc. Voilà, donc, vous voyez, retrouver l'Église comme ce peuple, comme ce corps, c'est quand même regagner la réalité, justement, de ce que nous appelons ce soir une église spacieuse. Et là encore, peut-être que ça reviendra dans les questions, mais je voudrais souligner le fait que les femmes soient sans le sacerdoce, puisque c'est ça la doctrine officielle, nous le savons. Pour moi, c'est quand même une grande chance, parce que, bon, à condition de bien comprendre et puis de bien utiliser cette situation, ça veut dire que, oui, sauf si nous, les femmes, sommes vouées à une sous-vocation dans l'Église, ce que je ne crois pas, parce que je ne peux pas croire, eh bien, en ayant le sacerdoce baptismal, nous avons la totalité de la dignité chrétienne. Et du coup, nous pourrions peut-être rappeler que, quelles que soient les qualifications, quelles que soient les charges, les ordinations, etc., qui existent dans l'Église, le fond du fond, l'essentiel, eh bien, c'est peut-être justement ce sacerdoce baptismal qui est partagé par tous. Et voilà. Oui, revenir au baptême et au sacerdoce baptismal, voilà, comme la grande affaire de la vie chrétienne et la grande affaire de l'Église, ce à partir de quoi il faut penser l'Église. Deuxième point, quelques mots pour vous dire que travailler à cette Église spacieuse, encore, je crois que eh bien, c'est se dégager d'un certain nombre de scléroses, de préjugés. Enfin, toutes ces choses qui se sont enquistées dans les esprits au long des siècles de l'Église, dont une partie d'ailleurs était des préjugés hérités, mais que l'Église a réendossés et qui sont là jusqu'à nous. Je pense à cette incompatibilité déclarée entre le service de l'autel et puis le fait d'être marié. Il faudrait des célibataires pour le service de l'autel. Vous savez, le débat sur les viri probati. De même, incompatibilité entre l'autel et les femmes. Pourquoi ? Bah, parce qu'elles sont impures. Une vieille affaire. En dépit de l'Évangile. La femme qui perd son sang, etc., vous vous souvenez de la scène. Eh bien, c'est indéracinable, tout ça. C'est indéracinable. Et nous savons les effets que ça produit dans un certain nombre de paroisses aujourd'hui. Donc, voilà des préjugés tenaces, très, très tenaces, sans parler eh bien, de tous les, de tous les préjugés de la misogynie, qui ont une longue carrière et une belle résistance. Voilà, les femmes sont dangereuses, comme on sait. Alors, les femmes sont impures, on vient de le dire. Hein. Et puis, les femmes, bon, ça, c'est une conviction du monde antique, hein, dans lequel Paul écrit. Hein. Les femmes sont... une femme ne peut pas commander à un homme. Hein. Que les femmes se laissent instruire par les hommes, que les femmes se taisent dans les assemblées. Hein. Voilà, les femmes sont inaptes à la parole. Bon, je pense que Roselyne pourrait nous expliquer ça avec beaucoup plus de précision que je ne peux le faire en ce moment. Voilà, donc vous voyez, oui, il y a beaucoup à déblayer pour rendre l'Église spacieuse. Il faut arriver à se défaire de tout cela. Et c'est une longue affaire, parce que plus les choses sont dans l'inconscient et dans l'implicite, voyez, plus elles sont difficiles à déraciner. Troisième remarque, je regarde ma montre. Voilà. Oui, remettre au centre le peuple de Dieu, peuple sacerdotal, voilà, eh bien, c'est forcément être amené à repenser la figure du prêtre. Et je pense que aujourd'hui, voyez-vous, ça fait partie des grandes urgences qui incombent à l'Église. Revisiter cette question du sacerdoce et revisiter vraiment, j'ose dire, sans simplement reconduire les vieux schémas. Et apparemment, c'est très difficile. Voilà, donc, oui, alors, bon, évidemment, cela va sans dire qu'il ne s'agit pas de plaider l'idée que l'Église se porterait mieux sans prêtre, sans une certaine, un certain profil de prêtre, peut-être un peu. Mais l'Église a besoin de prêtres. Et je peux attester parce que je rencontre beaucoup de prêtres, y compris dans des retraites sacerdotales, qu'il y a de la vie sacerdotale admirable aujourd'hui. Bon, trop évident. Il y a un dévouement au peuple de Dieu évident. Voilà. Mais il y a aussi des tentations cléricales clairement affirmées. Ce n'est pas trop les prêtres que je rencontre. Bon, j'ai cette chance. Voilà, pardonnez-moi si je suis trop impertinente. Mais voilà, donc, oui, l'Église a besoin de prêtres, un besoin vital, hein, qui lui rappelle simplement qu'elle n'est pas auto-fondée. C'est le Christ qui la fonde. C'est le Christ qui convoque, qui l'appelle. Et sans ça, l'Église est perdue, si elle oublie ça. De même que c'est le Christ qui est la source de la vie sacramentelle. Et le presbytérat achemine cette vie sacramentelle. Alors, on peut en discuter, mais enfin, quand même, c'est fondamentalement cela. Voilà. Donc, voyez-vous, voilà, je crois à une forte et urgente nécessité De redéfinir le sacerdoce ministériel, voilà, non pas comme un pouvoir sacré, voyez-vous, mais comme un service pastoral. Service pastoral, c'est comme cela que l'Église primitive conçoit la mise à part de certains en son sein. Au premier temps de l'Église, on a bien conscience qu'il faut qu'un tel ou un tel préside à la vie de la communauté. Il y a de la régulation. C'est très bien, dès que vous avez une collectivité. Et c'est en tant que celui-là préside à la vie de la communauté qu'il préside à l'Eucharistie. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que les choses se font au point de départ. Bon, à la différence d'un sacerdoce qui est d'abord marqué par le caractère sacerdotal du sacrement, etc., pouvoir sacré, et qui ensuite, se tourne vers le peuple de Dieu. Là, il y a vraiment à penser quelque chose comme un retournement, comme une conversion. Avec ce que cela risque de bousculer, évidemment, d'une certaine spiritualité sacerdotale qui n'est pas si ancienne que ça, hein, qui va se formuler en particulier à l'époque classique avec l'école française de spiritualité, avec de belles choses, de grandes choses, et puis d'autres plus difficile, hein, quand le prêtre est identifié à un alter Christus. On oublie, je crois que c'est Catherine de Sienne qui utilise l'expression pour le chrétien. Un chrétien est un alter Christus. Tout chrétien, de par son baptême, est appelé à être sacrement du Christ pour ceux qu'il rencontre. Hein. Voilà. Puis aussi l'idée que le prêtre, il y a un privilège de sainteté attaché à la condition presbytérale. Bon, alors aujourd'hui on dit appel universel à la sainteté, mais les choses sont tellement, enfin, on a tellement l'habitude de penser autrement qu'on a du mal à y croire à cet appel universel à la sainteté. Hein, voilà. Et donc, je pense que là, aujourd'hui, dans cette réforme de l'Église, il y a un point tout à fait majeur, hein, qui est de revenir à la fonction pastorale du ministère sacerdotal dans et pour une Église communion. Pour une Église communion. Rappelons-nous la formule de saint Augustin, hein, « Pour vous, je suis prêtre, hein, et avec vous, je suis chrétien. » Dans un cas, c'est une charge, dans l'autre cas, c'est une grâce. Voilà, Saint-Augustin, quand même, voilà, on devrait avoir fini par entendre. Hein. Et le Concile, d'ailleurs, je crois que c'est Lumen Gentium qui reprend la formule de Saint-Augustin. Bon, c'est déjà bien, mais il faut l'entendre. Et il faut que ces mots trouvent leur chemin, enfin s'incarnent hein, dans la vie de l'Église. Et tout ça, oui, il faut que ça s'incarne à travers des pratiques. Et c'est là qu'il faut réfléchir aux modalités d'une responsabilité baptismale partagée. Hein. Alors, ça peut être des choses, ça doit être des choses très concrètes. Nous savons bien que normalement, il doit y avoir aux différents niveaux de la vie d'Église des conseils. Ça va du conseil pastoral au conseil épiscopal. Sauf que ces conseils, oui, je crois quasiment tout le temps, oui, sont quand même facultatifs avant tout. Bon. Facultatifs, oui. De même que les synodes diocésains. Oui, c'est très bien, mais c'est aussi laissé à l'appréciation de l'évêque. Il faudrait aussi que les églises locales se mettent à exister plus hein, et que l'on sorte de ce fonctionnement pyramidal, etc. Il faudrait que la collégialité, bien sûr, entre les évêques hein, voilà, joue vraiment. Hein. Voyez, bon, je pense à ces chrétiens que je rencontre très, très fréquemment ici et là dans les différents diocèses qui sont en charge de missions ecclésiales, hein, ce qu'on appelle les LEM. Voilà, c'est une des formes de délégation importantes et intéressantes, mais la pratique de l'autorité ne bouge pas pour autant. Donc, voilà, ces chrétiens sont sur le terrain, font le travail de la mission, mais sans accès à la réflexion partagée, sans accès au discernement, sans accès à la décision, bien évidemment. Alors, c'est mon quatrième point, j'avance. Je voudrais dire quand même que, bien sûr, le pape François est très secourable. Pour impulser ces transformations, même si beaucoup, beaucoup reste à faire. Oui, je crois qu'il nous donne un certain nombre de leviers pour retrouver cette identité de l'Église communion entre égaux, hein, de l'Église communion entre des membres qui sont dans cette... Oui, dans cette égalité filiale et baptismale. Alors, filiale, oui, parce que c'est ça que je voudrais d'abord pointer en provenance du pape François, toute l'insistance qu'il met sur la fraternité. Bon, là aussi, un grand sujet. Il peut y avoir de la méfiance ici ou là sur la fraternité. Est-ce que c'est vraiment le christianisme à plein régime, si j'ose dire? Oui! Lisons la première lettre de Saint Jean, hein. Ça n'est pas facultatif, la fraternité. La fraternité, si j'ose dire, c'est une réalité à haute teneur mystique. Je veux dire par là que Saint Jean nous explique que la fraternité, c'est toujours une réalité qui engage trois termes, moi, l'autre et puis Dieu. C'est toujours une triangulation, la fraternité, voyez-vous. Et donc, c'est la vie de l'Église au plus central, hein, même si fraternité figure sur les frontons de nos mairies. Hein, voilà. Bon, bien. Rappelons-nous aussi que Adelphoi, c'est le nom des chrétiens à partir de la résurrection. Voilà, donc Fratelli Tutti, vous voyez, ça n'est pas... Ce n'est pas une inflexion particulière au pape François. Fratelli Tutti, oui, c'est nous ramener au cœur de l'identité et de la vie chrétienne. Bon. Engendrer dans le Christ, dans le Fils unique, nous devenons fils adoptifs. Et dès lors, si nous sommes les uns et les autres fils adoptifs, eh bien, nous sommes frères. Bon. Oui, j'aime bien rappeler que le décret sur les prêtres dans le corpus de texte du Concile, hein, Presbyterorum Ordinis, d'abord parle de presbytre beaucoup plus hein, que de prêtre. Hein. Et il insiste fort sur cette thématique du être frère, en rappelant aux frères, aux prêtres, parmi les hommes, vous êtes frère parmi les hommes. Voilà. Donc cette fraternité qui a été rappelée aussi récemment par le pape dans le discours qu'il a donné en ouverture, si je me souviens bien, du colloque sur le sacerdoce à Rome, réuni par le cardinal Ouellet, et où le pape revient sur cette question de la fraternité. Bon. Voilà, donc, vous voyez, la question est comment susciter des relations fraternelles dans l'Église aujourd'hui. Je crois que c'est une urgence. Enfin, bon, soyons honnêtes. Il y a beaucoup de mécompréhension entre prêtres et laïcs, même s'il y a de la communion et de la fraternité. Bon, je complète tout de suite, hein, mais quand même. Hein. Le pape dit aussi que c'est pas moi qui le dis, mais qu'il peut y avoir un manque de fraternité dans la vie, dans les relations entre prêtres. Hein, voilà. Les relations humaines sont toujours difficiles. Bien. Bon, et dans l'Église, voilà, la fraternité se conquiert, hein, sur ces difficultés, sur ces obstacles. Voilà, donc, fraternité, voilà un levier. Hein, donc. Et puis, j'ajoute tout de suite, fraternité et synodalité. Mais j'ajoute que fraternité comme préalable à la synodalité. Bon, l'expérience de la synodalité que nous vivons me renforce dans l'idée que pour que la synodalité puisse effectivement se vivre, il faut que le terrain ait d'abord été labouré par la fraternité. La synodalité sans la fraternité, c'est vraiment très difficile. Elle risque de rester, voyez-vous, une rencontre dissymétrique, voilà, sans accéder à la parole réciproque. Voilà, donc, bon, j'arrête bientôt, je continue encore un instant. Fraternité, synodalité, l'Église, communion, tout ce que nous avons dit là, beaucoup trop vite. Il faudrait que ça puisse vraiment pénétrer dans tous les séminaires de France. Voilà, c'est un vœu, mais il faut faire des vœux. Hein. Voilà. Et puis, je passe à mon cinquième point. Pour favoriser une église spacieuse, bon, c'est pas. Je donne l'impression de prêcher pour mon saint, pour mes saintes, mais c'est vrai qu'il faut écouter les femmes, je crois. Voilà. Non pas leur faire une place, comme on dit. D'abord parce que la place, elle l'occupe déjà. Le problème, c'est que cette place, elle l'occupe, mais souvent sans suffisamment de fraternité, sans suffisamment de synodalité, voyez-vous. Hein, voilà. Donc, on va faire de la place pour les femmes, donc on va se comprimer un peu, hein, voilà, mais ça va faire de la juxtaposition, au mieux de la coexistence. Mais il faut que ça fasse de la vraie fraternité. Hein. Et donc, voilà... Oui, se mettre à écouter quand même beaucoup plus les femmes. Vous savez, le pape invite, et oui, c'est quelque chose qui circule dans l'Église. Hein. Le pape insiste sur le fait que pour que l'Église soit vraiment vivante, il faut qu'elle commence par écouter. Alors les périphéries, comme il dit, mais à écouter l'expérience de vie. Hein. Oui, de ceux qui sont souvent marginalisés dans l'Église, et en particulier les pauvres, dit-il. Il y a beaucoup à apprendre de ceux qui sont à la marge. Alors, je ne veux pas, assimiler les femmes à une vision misérabiliste, à la partie de l'humanité qui est rejetée, etc. Mais quand même, regardons ce qui se passe dans les sociétés humaines. Nous sommes quand même très privilégiés dans nos pays européens, mais si vous allez voir un peu au-delà, il y aurait tout un récit de la vie des femmes sous la domination masculine. Et ça, c'est pas très difficile de recueillir ce récit. Entendre ce qu'est la vie des femmes. Et à partir de là, consentir à ne plus simplement parler pour elles, en particulier dans tout ce qui concerne leur rapport à la vie, à leur propre vie, à la vie qu'elles enfantent, leur rapport au corps, à la chair, etc. Oui, entendre ce récit des femmes. Et je pense que là, on affinerait quand même le discours à propos d'un certain nombre de réalités de nos sociétés. Voilà. Je vous dis carrément, je souffre beaucoup d'un certain discours militant contre l'avortement, non pas que je sois pour, mais il y a une manière de parler de tout ça qui est quand même. Voilà. Qu'en pensent les femmes qui vivent dans certains endroits la rudesse de la condition féminine d'une manière extrême. Est-ce qu'on pourrait écouter un peu la voix des femmes dans l'Église sur un sujet comme celui-là? Voilà. Donc, je vais tenir l'horaire que l'on m'a fixé. Donc, je conclue pour vous dire que... je vous ai livré des pensées avec liberté. Voilà, peut-être trop. J'espère n'avoir choqué personne. Il s'agit de réfléchir, mais en se parlant, justement. En s'écoutant, y compris dans ce que dit l'autre et qu'on n'a pas envie d'entendre. Et voilà, mais c'est ça. C'est ça le secret quand même de la synodalité. Donc, pour moi, je vois, si vous voulez, à travers tout ça, l'ouverture d'un chantier, d'un vaste chantier, un chantier, ça veut dire qu'il faut se mettre au travail, mais il faut se mettre au travail en ayant conscience, et voyez, ça c'est la source tout de même de la confiance et de l'espérance, en ayant conscience que nous ne sommes pas dépourvus. Nous ne sommes pas dépourvus, nous avons des moyens pour œuvrer. Et le moment, ce moment qui est si rude, évidemment, dans l'Église, avec ce que nous savons du rapport de la SIAZ, etc. C'est un moment qui a une saveur de mort. Mais en même temps, je crois que c'est aussi, un kairos, c'est une occasion. Parler le français ordinaire. Je pense que c'est une occasion. Et il faut quand même se réjouir d'être dans l'actualité de cette occasion. Et puis se souvenir, je crois profondément que fraternité et synodalité, ces grands leviers, ils ne peuvent être dans la vie de l'Église qu'une longue patience. Ça ne se décrète pas, la fraternité. Ça ne se décrète pas. C'est quelque chose qu'il faut vouloir, c'est quelque chose qu'il faut apprivoiser, c'est quelque chose en quoi il faut croire. Et puis quand il y a suffisamment de fraternité, je pense que la synodalité vient assez naturellement. Voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui un certain nombre de réalités vermoulues dans l'Église s'effondrent. elles le font, hein, et c'est douloureux, mais il faut que ça aille jusqu'au bout, hein, dans une logique d'émondage. Ça aussi, c'est très biblique. Hein. Et puis, il faut ne pas, ne pas négliger les potentialités, tout ce qui naît, parce que il y a quand même beaucoup de choses qui naissent. Hein. Et à la manière aussi, à la manière biblique, à la manière évangélique, vous savez, c'est la croissance silencieuse, hein, du royaume qu'évoquent les paraboles. Et donc, ce ne serait vraiment pas juste, hein, que de ne pas donner tout son prix et tout son poids, hein, à cette réalité-là, hein, de ce qui, voilà, voici que je fais du nouveau, hein, dit le livre d'Isaïe, et qui déjà germe, ne le voyez-vous pas. Je pense qu'il faut entendre cette invitation du livre d'Isaïe, la faire retentir dans notre espace ecclésial et dans notre moment présent. J'arrête.
Merci beaucoup. En vous écoutant, je suis moi-même professeur au séminaire d'Issy Moulineau et je me dis qu'on a un peu de taf encore. et qu'un des bons signes, c'est précisément que vous puissiez prendre la parole. En ce moment, je sais que vous la prenez souvent et que ça vous finit par vous fatiguer, mais Deo gratias, quoi, parce que il faut que vous soyez nombreuses. Et dire des choses aussi essentielles me paraissent en effet de l'ordre de la viridité, comme disait Hildegard von Bingen. La viridité, c'est la vertu de ce qui grandit. Voilà, à l'opposé de la virilité, qui est une valeur grecque, qui a été quelque peu dévoyée sur le pôle masculin uniquement. Voilà, donc c'était. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir consacré ce temps. Il y a un petit temps de questions.
Merci. La démarche synodale que beaucoup d'entre nous vivent, notamment dans nos paroisses, nous amène à toucher une difficulté. J'allais dire, c'est facile de répondre sur Internet au questionnaire du diocèse de Paris. Encore que les contraintes de forme sont un peu casse-pieds. C'est beaucoup plus difficile de faire ce que nous demande notre curé, qui est de rédiger pour la paroisse la proposition du groupe synodal. Car là, nous avons cette difficulté particulière que ces hommes que nous respectons, dont nous savons la profondeur de l'engagement, dont nous savons qu'ils ne sont pas tous très doués en management, qu'ils ne sont pas tous très doués en ressources humaines, etc., mais qui sont nos prêtres, dont nous avons tellement besoin, et nous sentons une vraie difficulté à nous adresser à eux en réclamant une mutation du rapport clerc-laïque, qu'ils ne prennent pas pour une agression contre leur dévouement, leur total dévouement. Donc, avez-vous l'impression que les prêtres, ou une majorité d'entre eux, sont prêts à entendre, à dialoguer? Comment faire pour éviter de les choquer par nos revendications?
Merci. J'ai envie de dire d'abord que, enfin, moi, j'ai un mal fou à concevoir que répondre à un questionnaire, ce soit de la synodalité. Bon, j'ai vu ça dans ma paroisse. On vous distribue un papier à la place de l'homélie. Vous répondez à trois questions. J'ai répondu avec une certaine impertinence. que la synodalité, c'était se parler, c'était s'écouter. Donc, je vous avoue que je suis très, très déconcertée avec ce dispositif. Alors, évidemment, ça évite les problèmes que vous dites, mais on ne se rencontrera jamais. Et on ne s'apprivoisera jamais. Alors que, bon, mon expérience, si vous voulez, c'est que bon, quand j'étais amenée à parler des femmes dans l'Église, etc., et dans des assemblées où il y avait des prêtres, je me souviens, il y avait une majorité de femmes, donc je parlais comme femme à des femmes. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié que certains viennent me voir après. Pouvant contrister, fâcher, en me disant « mais vous ne vous rendez pas compte, hein, les femmes dans les paroisses, ceci, cela ». Et je vous avoue que j'écoute de toutes mes oreilles. Et pour moi, là, bah bien sûr que c'est compliqué. Hein, et que ce n'est pas simplement les femmes qui sont opprimées ou je ne sais pas quoi. Bien sûr que c'est compliqué. La relation homme-femme, elle est toujours compliquée. Hein, et bien sûr aussi dans une paroisse. Hein. Donc, comment travailler ça? Je me dirais que, si vous voulez, pour moi, la première chose quand même qui est encourageante, c'est que la question soit posée. Voilà. Et je pense que les échecs qui ont pu être vécus dans la mise en œuvre de la synodalité, ils ont leur valeur, c'est-à-dire qu'il va falloir les interroger. Hein. Pourquoi ça n'a pas marché? Et ça peut permettre d'avancer. Hein. J'ose dire, pardonnez-moi, je ne veux pas me raconter, mais c'est mon expérience et c'est mon expérience heureuse aussi. J'ai donné deux retraites sacerdotales depuis le début de l'année. Et j'ai parlé comme je vous ai parlé ce soir. Et on s'est compris. Et on s'est quitté avec un sentiment de quelque chose de réussi. Et moi, j'ai vu, j'ai écouté tous ces prêtres et je suis repartie édifiée. Je me suis dit, j'ai vu l'Église et c'est bien. Bon, des hommes qui sont dans la fidélité sur le terrain, dans des conditions difficiles. Et voilà. Donc, oui. Bon, ce que vous évoquez est très... C'est impactant, enfin bon, quand on voit l'aile. Mais on n'arrive pas à se parler immédiatement. On est sur la défensive. Si vous critiquez le style de sermon de tel ou tel dans la paroisse, je ne vous dis pas. Hein, bon, alors que le sermon, c'est une parole adressée. Hein, donc normalement, le destinataire doit pouvoir réagir, hein, en le faisant gentiment. Hein, mais voilà, bon. Donc, c'est vraiment à travailler, tout ça. Bon, mais je vous laisse la parole. Je crois qu'il y a une... Oui.
Oui, vous avez évoqué la hiérarchie, la fraternité. Je suis frappé de la plupart des prêtres que je crois se font appeler pères, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Je l'en appelais plein par leur prénom. Et on a un prêtre burkinabé qui dit « Chez moi, on m'appelait frère ». Ici, je rêve de me faire appeler frère, mais il faut que je me fasse appeler prêtre, père.
Eh bien oui, mais l'obéissance a des limites, hein, voilà, et même des aspects problématiques. Hein, bon. Donc voilà, mais cette histoire de la désignation, bien évidemment. Hein, et, oui, père, n'appelez personne père, vous n'avez qu'un seul père. Hein, voilà. Bon, frère, et le prénom d'un... Bon, à partir du moment où on travaille ensemble, hein, bah c'est chacun d'entre nous a reçu un prénom à son baptême. Donc, le prénom, il a une belle dignité, hein, une belle dignité baptismale. Quand est-ce qu'on va arriver à ça, hein, voilà. Bon.
Merci. J'étais très intéressée quand vous avez raconté l'histoire de l'Église et cette cléricalisation, mais il y a eu une réforme dans l'Église. Est-ce qu'on se porterait mieux si on avait été réformé? Des protestants, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà une réaction qui s'est passée contre cette cléricalisation, et finalement, est-ce que ce n'est pas le même chemin qu'on doit faire nous aussi
Vous me demandez si j'ai pas envie de devenir protestante. Non. Je vous cherche. Oui, alors, il y a eu l'expérience de la réforme, hein, qui a pointé, de fait, des dérives, en suscitant la contre-réforme. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, vous voyez, ça a encore complexifié les choses. Ouais. Et oui, moi, j'ai des amis protestants, protestantes, et je ne cache pas qu'il y a des choses qui me conviennent mieux chez eux, hein, oui, hein, mais je tiens à mon héritage de catholique, hein, et je n'ai pas envie de lâcher, si vous voulez, hein, en me disant que... oui, enfin, je vous disais, on a des ressources, hein, et voilà. Et bon, il ne faut pas non plus imaginer que dans le protestantisme, enfin, il n'y a pas des problèmes. Hein, et que, bien sûr que oui, hein, mais vous savez, c'est aussi un enjeu de l'œcuménisme. Hein, bon, voilà, est-ce que l'on est capable de s'écouter mutuellement et de se respecter, et de se laisser inspirer par l'autre. Oui. Je suis bien d'accord avec vous.
Pendant qu'on prend les questions, il y a des paniers qui circulent. Je vous rappelle qu'à la demande de Mme Pelletier, c'est pour l'Ukraine et ce sera remis à la Croix-Rouge internationale.
Bonsoir. Tout d'abord, merci pour votre intervention très claire, sans polémique, ouvrant le dialogue. Je vais me lever, ça sera plus simple. Donc, merci. Je voulais vous poser une question. Comment peut-on faire dans nos paroisses pour que les conseils pastoraux, presbytéraux, conseils économiques divers et variés, et que j'en passe, ne deviennent pas des entre-soi sociologiques? J'insiste parce que quand je parle d'entre-soi sociologique, très souvent, ce sont des personnes qui ont bac plus machin, monsieur un tel, madame un tel, qui ont des noms, des relations, certains types de professions. Beaucoup de personnes qui sont à la marge dans l'Église auraient des choses à dire pour la vie de la paroisse, pour l'ouvrir, pour l'illuminer. Mais ces personnes-là sont sans voix. Et certaines s'en vont parce qu'elles estiment que, après tout, quand je suis pas dans ces espaces-là, ma dignité sacerdotale, elle est niée. Ma dignité, pardon, baptismale, elle est niée. Et je vois des gens partir. Et un public chassant l'autre, excusez-moi l'expression. Comment fait-on ?
Oui, comme vous avez raison, merci. Hein. Déjà, on parle comme vous faites. Hein. Voilà. Parler, dire. Alors bon, c'est pas suffisant que ça se dise ici. Hein? Bon. Mais c'est déjà bien. Hein? Et arriver à, voilà, à essayer de pousser ces questions-là, parce que bon, on reconstitue des chapelles, bien évidemment. Hein? Bon, ces entre-soi dont vous parlez, oui. Enfin bon, je ne veux pas évoquer les choses sur le plan personnel. Mais enfin, bon, j'aurais des choses, plein de choses à dire. Mais voilà. Hein. Donc, vous avez tout à fait raison. Et alors, peut-être qu'il faut entrer dans ces conseils et puis trouver le moyen de faire entendre, hein, ce que vous dites là. C'est à l'intérieur des conseils. Oui, mais voilà. Donc, il faudrait que les chrétiens se convertissent. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'être dans l'Église avec des responsabilités si ce n'est servir ? Alors là, c'est un mot aussi qui sert de paravent à tout. Hein. Mais si on prend vraiment le mot de service au sérieux, c'est-à-dire si on commence à regarder comment le Christ sert... et comment il exerce son autorité, hein, on apprend des choses qu'on ne sait pas suffisamment. Et là, je me permets de vous renvoyer, parce que je pense que c'est accessible, je ne sais pas bien comment, mais sur Internet, on trouve tout, à la séance qui a eu lieu hier soir à l'Institut catholique, Donc nous étions trois à prendre la parole. Dominique Grenier, qui est journaliste à la Croix, le père Étienne Grieux, qui est jésuite, et puis donc moi. Et le père Grieux a fait, dans sa prise de parole, s'est longuement arrêté sur la question de l'exercice de l'autorité. Comment l'autorité doit-elle s'exercer dans l'Église, à l'école du Christ? Donc, si vous avez l'occasion, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant, de même que la manière dont il a parlé de la liturgie, hein, comme un lieu de réversibilité, comme un lieu de dialogue, comme un lieu où voilà, la parole circule, et l'autorité aussi de qui a la parole circule. Quand on commence à réaliser ça, oui, on s'aperçoit que c'est pas simplement voilà le célébrant et puis une assistance, hein, c'est vraiment c'est l'Église, hein, et de l'Église dans le geste voilà de d'offrande du sacrifice, hein, parce que c'est le sacrifice de l'Église d'abord, hein, et associé au Christ en réponse à celui du Christ, hein. Donc il y a bon, je me permets de vous recommander ce que le père Grieux a dit, parce que il y a matière à réflexion. Et puis voilà, quand vous êtes dans un conseil et qu'il y a moyen de glisser des analyses comme celle-là et de suggérer qu'il y a peut-être quelque chose à écouter, il y a peut-être des leçons à entendre. Voilà, je pense qu'il faut. Bon, je conçois que quelquefois on soit découragé, mais là, voilà, il faut avoir cette constance, hein, je crois.
Voilà, donc par rapport à l'Église, peuple de Dieu, la dignité du baptême, il y a quand même eu Vatican II, hein, qui a été un grand souffle de l'Esprit Saint. Quand on vous a entendu parler, on avait l'impression que le concile n'avait pas eu lieu, quoi. Donc non, mais j'exagère un petit peu, mais je pense qu'il y a eu des choses très positives. Bon, ça c'était juste une remarque. J'aurais aimé que vous nous en disiez plus, un peu plus sur le diaconat féminin, où est-ce que ça en est. Et c'est aussi la place des jeunes. Parce que je me dis, il y a une déchristianisation. Les jeunes qui arrivent, là, ils n'ont pas le passé. Il y a peut-être aussi, avec ces JMJ, tout ça. Là, quand je vois notre assemblée, bon, moi, la première avec mes cheveux blancs, bientôt à la retraite, voilà, tout un passé. Mais je pense que ceux qui, voilà, les baptisés du 21e siècle, la place des jeunes, je pense qu'avec les JMJ, Annuncio, il y a plein de choses, et je pense que c'est aussi ces jeunes-là qui doivent bâtir l'Église. Donc il y a aussi un gap generation, comme dirait l'autre, hein. C'est ça. Bon, voilà.
Je prends la parole derrière parce que c'est un peu un complément. Moi, ce qui me frappe, donc, on est là pour une église plus spacieuse, et ce qui me frappe, c'est que, en particulier les jeunes, discrètement, alors, ou ils n'ont jamais mis les pieds à l'église, ou ils s'en vont sur la pointe des pieds, et là où ils se retrouvent, ainsi que d'autres, à la messe, et très rarement, c'est pour les mariages, c'est pour les enterrements. Et moi, quand je suis à un mariage ou un enterrement, j'essaie d'écouter en pensant à eux, en me disant... Je viens de l'extérieur, j'écoute ce qu'on me dit là, qu'est-ce que je comprends? Et pour moi, c'est une vraie douleur de me dire, finalement, on a des gens qui viennent, ils assistent à un truc où ils ne comprennent rien, et ils repartent en se disant, dites-moi, hein, je ne vais pas remettre les pieds à l'église. Alors, à côté de ça, on a des prêtres qui, dans ce genre de cas, savent pertinemment comment faire, expliquer, font ça avec beaucoup de délicatesse. Il y a également maintenant... la possibilité, dans les petits livrets que l'on fait, d'intégrer quelques explications. Et ça me paraît aussi important. Enfin, voilà, comment faire rentrer à nouveau ceux qui sont loin de l'Église?
Bon, je prends les... Donc je cumule les questions. Alors d'abord sur Vatican II, je suis désolée si vous avez l'impression que j'ai contourné Vatican II. Je n'ai cessé de parler de Vatican II, en pensant que ce n'était pas la peine d'expliciter. Mais quand je parle de sacerdoce baptismal, quand même, quand je parle de vocation universelle à la sainteté, quand je parle de presbyterorum ordinis, voilà, évidemment. Alors, j'entends votre question, c'est-à-dire que ce que l'on décrit comme crise apparaît bien quand même dans un certain nombre de cas comme une méconnaissance du Concile. Alors ça oui, ça, dans ce sens-là, oui. Il y a toute une réception qui n'est pas faite. Et déjà, si on puisait dans le Concile, alors j'aurais peut-être dû le dire, finalement, quand j'ai parlé des ressources pour travailler au chantier. Donc on les ajoute, vous ajoutez, bien entendu, le Concile Vatican II, où on a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui fait que tout ça est à disposition et en même temps et ça rejoindra un peu d'ailleurs ce que je voudrais dire à propos des jeunes. L'Église qui aujourd'hui a le plus de visibilité, y compris chez les jeunes, je suis désolée, est très fortement dans l'ignorance de Vatican II, quand ce n'est pas dans le rejet. Bon. Donc, ça sur Vatican II, d'accord. Voilà. Ensuite, sur le diaconat féminin, que vous dire, rien. Parce que, vous savez que les commissions romaines, quand on est dedans, on est censé ne rien dire. C'est typiquement le genre de choses dont j'aimerais parler avec une assistance comme vous, parce que qu'est-ce que les chrétiennes, puisque c'est elles qui sont concernées, pensent d'un diaconat féminin, qu'est-ce qu'elles attendraient, est-ce qu'elles attendent Alors, moi, je suis en relation avec des femmes, avec des religieuses en particulier d'Amérique, d'Amazonie, qui, elles, sont très, très intéressées. C'est grâce à elles, d'ailleurs, que la commission a été relancée. Mais il y a des Européennes et des Américaines dans la commission. Point. C'est quand même ennuyeux. Voilà. Et que vous dire, ma conviction, je ne dirais pas celle des autres dans la commission, mais ma conviction, c'est que si le diaconat féminin n'est pas l'équivalent du diaconat masculin, c'est un piège. On ne fait que reconduire la hiérarchie. Or, le diaconat masculin permanent, comme vous le savez, même permanent, c'est un diaconat ordonné. Vous voyez le problème. Voilà. Donc... faut-il se battre là-dessus? Oui, je reviens quand même sur la question des jeunes. Bon, et alors, sur ce que vous dites des jeunes, oui, j'entends bien tout ce que vous dites. Oui, j'entends tout. Sauf que, oui, ce que je disais tout à l'heure, qui n'apparaît pas. C'est sûr qu'il y a une désertion, y compris dans des familles chrétiennes. Enfin, c'est l'expérience, je crois, de beaucoup de nos familles. La transmission n'arrive pas à se faire, parce que, pas par mauvaise volonté d'ailleurs, mais parce que la vie chrétienne est insignifiante pour beaucoup de jeunes. Enfin, c'est ce que vous dites. Enfin, ça n'évoque rien pour eux. Assister à une messe, qu'est-ce qu'ils comprennent Voilà. Et là... Bien sûr qu'il doit y avoir moyen de vous parliez de ces moments un peu exceptionnels, de célébration d'un mariage, quand c'est bien fait, et ça peut être bien fait, c'est quand même un moment de catéchèse tout à fait extraordinaire. Je dirais aussi dans les célébrations de funérailles, il y a des jeunes, la famille, ça devrait pouvoir être, on devrait quand même pouvoir faire entendre quelque chose au cœur, au centre, dans les funérailles. Quand on est chrétien, voilà, la relation à la mort, il y a une parole spécifique. Et quand même, trouvons le moyen d'affiner cette parole pour qu'elle puisse parler. Donc, d'accord avec ce que vous dites. Mais je ne vous cache pas que moi, mon souci, c'est que... c'est quand même... des jeunes chrétiens aujourd'hui qui sont, pardonnez-moi, mais sociologiquement très marqués. C'est pas une infamie, mais on est qui on est, et qui sont, ceux que je rencontre aussi, sur la place de Paris, ils sont aux antipodes de ce qu'on se dit ce soir. J'espère en même temps qu'on aura un discours chrétien. Je souhaite de tout mon cœur, Mais quel problème, voyez-vous, hein, quel problème, d'autant plus que la visibilité de l'Église aujourd'hui, la visibilité de la jeunesse chrétienne, hein, catholique en tout cas, elle est très très monocolore et très anti-église spacieuse. Ouais. Ça, c'est un très sérieux problème, très très sérieux problème.
Ouais. Voilà, merci. Pour pas finir sur une touche tout à fait négative, il se fait que sur la paroisse où je suis, il y a beaucoup de jeunes. Alors en effet, il y a clairement dans le milieu des jeunes gens, il y a les deux tendances, disons, il y a une tendance réac, qui est celle de nos milieux, et il y a aussi une tendance que moi j'appelle évangélique, genre église évangélique. C'est ce que j'ai sur ma paroisse, alors je passe du coup pour un gauchiste, pour les autres. Mais peu importe. Et ça, c'est un mouvement qui est quand même qui compte. Hein. Ils sont nombreux. Alors, le problème, c'est que les autres, les réacs, sont plus bruyants et plus facilement identifiables sur l'échiquier politique. Mais les autres existent, hein, rassurez-vous. Voilà. C'est par exemple, chez aumônier des équipes, chez aumônier des scouts de France, aussi bien que des SUF. Et là, il y a quand même des belles possibilités. Étant entendu qu'ils n'ont pas la même idée que nous de ce qu'on entend par pratique. Voilà. Là, c'est être dans l'Église, pour eux, ce n'est pas tout à fait ce que nous, on entend par être dans l'Église. Prier, se rassembler ensemble, faire un pèlerinage, pour eux, c'est être dans l'Église. Avoir des soirées de louanges, c'est être dans l'Église, même s'ils ne pratiquent pas l'Eucharistie, par exemple. Voilà, c'est des choses comme ça. Ils sont très branchés côté écologique. Donc voilà, rassurons-nous quand même, l'avenir est là. Quoi. Voilà, merci beaucoup. Alors, vous avez vos livres. Donc vous avez le stand de librairie au fond, hein, vous avez bien compris, en sortant de la salle. Mais avant de sortir de la salle, vous pouvez profiter du buffet qui est ici et vous pouvez profiter de vous. Voilà, discuter entre vous, continuer le débat. Merci à tous et à bientôt.